Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Je voudrais que nous regardions ensemble les sept clés essentielles, les sept clés pour ceux et celles qui exercent le service dans la délivrance. Un sujet très controversé, n'est-ce pas? En 83-84, Dieu a permis à son Église à nouveau de rentrer dans ce service que l'Église avait un peu abandonné. Mais dans ce temps de la fin, alors que les ténèbres montent de plus en plus sur la terre, alors que la confusion règne, alors que le mélange règne, l'Esprit de Dieu veut équiper son Église dans ces temps de la fin. Nous désirons ce matin que le message qui va être donné soit gravé dans nos cœurs. Oh, n'est-ce pas? Ces sept clés sont essentielles pour ceux et celles qui prétendent pouvoir libérer au nom du Seigneur leurs frères et de leurs sœurs. Si ces sept clés ne sont pas réunies dans nos vies, alors vaut mieux pas essayer de délivrer les gens, mais plutôt de continuer à chercher la face de Dieu jusqu'à ce que Dieu nous emploie. La première de ces clés, c'est la foi, bien sûr. C'est une vérité de la palisse. Je vous rappelle brièvement ce que nous avions déjà dit. La foi, c'est une des sept clés d'un trousseau qui en comporte sept, n'est-ce pas? L'autorité de la foi. Alors ce matin, oui, je vais peut-être dire autre chose sur la foi. Je voudrais que nous puissions lier la foi à l'autorité. Car l'autorité vient de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la parole que Dieu met dans nos cœurs pour que l'autorité du Seigneur s'installe en nous. Et comme la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend est la parole de Dieu, donc nous voyons qu'il y a un lien très intime entre l'autorité et la foi. La foi est liée à l'autorité et l'autorité est liée à la foi. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. En tous les cas, vous rappelez, n'est-ce pas? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend est la parole de Dieu. Romains 10, 17. Donc, nous comprenons que cette première clé de la foi doit normalement s'exercer en priorité dans la vie de ceux et de celles qui veulent et qui désirent être entre les mains du Seigneur pour exercer cette liberté de gens qui sont qui ont besoin d'être libérés par le Seigneur. L'Écriture nous rappelle que le pouvoir d'expulser les démons ou les esprits dans l'Écriture n'est pas un charisme du Saint-Esprit. Je m'explique. Tels les dons spirituels, comme les dons de miracles ou les dons de guérison. Mais l'évangile de Marc nous dit que c'est un signe, que c'est un signe qui accompagnera ceux qui auront cru. Nous avons bien compris que on n'est pas des gens qui prenons la parole de Dieu et qui nous amusons avec. Quand nous disons que ceux qui ont cru, nous comprenons que ce sont des hommes, des femmes qui ont été convaincus par le Saint-Esprit de péché. Et qui ont reconnu que Jésus était mort à la croix pour eux, qui ont reconnu la valeur du sang de Jésus pour leur vie, qui sont nés de nouveau et qui marchent conformément à la volonté divine. Même si nous sommes encore dans nos faiblesses humaines, nous, ce qui doit distinguer un vrai enfant de Dieu des autres personnes, c'est l'amour qu'il a dans son cœur pour le Seigneur. C'est la passion de Christ en lui. C'est le toucher de Dieu dans sa vie. Hein? Jésus a dit à un moment donné dans l'évangile de Luc, j'ai désiré ardemment allumer un feu sur la terre. Et Jésus l'a allumé puisque dans ses enfants, il a allumé ce feu dans les cœurs. Alléluia. Mais ce feu, une fois allumé dans nos cœurs, nous devons l'entretenir. C'est de notre part d'entretenir le feu. C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, il y a un passage qui nous fait comprendre cette chose. C'était au sacrificateur, n'est-ce pas, qui faisait des sacrifices d'animaux devant l'Éternel. C'était lui qui avait la charge d'avoir l'autel allumé jour et nuit. C'était lui qui devait apporter le bois jour et nuit sur l'autel afin que l'autel ne s'éteigne pas. Alléluia. Et c'est de notre ressort, n'est-ce pas? C'est de notre devoir de ne pas laisser le feu que Dieu a allumé dans notre cœur s'éteindre. Nous devons jour et nuit, quand l'Esprit de Dieu nous conduit, à réanimer ce feu par le moyen de la prière, par le moyen de l'intercession, par la louange, par l'adoration, peu importe ce que Dieu mettra sur notre cœur. Mais il faut que ce feu demeure dans nos cœurs pour pas que nos vies s'éteignent. Nous avons chanté tout à l'heure ce petit cantique, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Mais Jésus a déjà envoyé le feu sur nos vies. À nous de continuer à alimenter ce feu dans nos cœurs. Comment? Par quel moyen? Par l'ordre de la communion avec le Seigneur, par l'ordre de l'intimité avec le Seigneur, par l'ordre de rentrer dans sa chambre et là, dans le lieu secret, de demander à notre Père qui est dans les cieux d'avoir un cœur à cœur avec le Seigneur. Nous ne pouvons pas prétendre à avoir la révélation de Dieu. Et je vous le dis ce matin, comme je l'ai dans mon cœur. Je ne peux pas prétendre avoir la révélation de Dieu si je n'ai pas un cœur à cœur avec le Seigneur. Ce que j'ai compris, c'est que l'Esprit de Dieu qui vit en moi, lorsque je suis dans un cœur à cœur avec le Seigneur, et selon la grande miséricorde de Dieu, le Saint-Esprit va, qui sonde la hauteur, la largeur et la profondeur du cœur de Dieu, va venir chercher la révélation dans le cœur de Dieu pour me la communiquer. Et alors là, quand je reçois la révélation de Dieu, les yeux de mon cœur sont illuminés. Enfin, je ne voyais pas, maintenant je vois. Enfin, j'avais des écailles, maintenant mes écailles sont tombées. Enfin, je comprends ce que Dieu veut me dire. Non pas avec mon intelligence humaine, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, vous et moi, nous devons enseigner, prêcher, non pas comme avec une connaissance intellectuelle, mais par révélation du Seigneur. Alors, c'est ce signe qui, accompagnant, qui auront cru, va ajouter un espèce de trouble, n'est-ce pas? On aurait pu penser que ça serait l'apanage des pasteurs, ou des docteurs, ou des évangélistes, que c'était les gens qui étaient dans le ministère qui avaient cette possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir exercer ce service de libération. Non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, cela. Il est dit dans l'Écriture que c'est un signe qui accompagneront ceux qui auront cru. Il se pourrait donc que les enfants de Dieu sans titre, sans apparente personnalité, voient ce signe accompagner leur foi et que d'autres aient à s'interroger devant l'absence de signe. Quelle merveille! Quand nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu, voir comment le Seigneur peut agir. Quelle merveille de voir Dieu agir. Il est dit dans l'Écriture, on l'appelle le Tout-Puissant. Il est Tout-Puissant. Jésus est venu manifester le royaume de Dieu sur la terre. Il y a eu une confrontation entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et nous avons vu Jésus annoncer l'évangile et regarder les Écritures. Et partout il passait, de village en village, Jésus que Dieu avait oint de l'Esprit Saint, il guérissait les malades, il chassait les démons, il délivrait les gens d'infirmité. Il ressuscitait les morts. Les esprits le connaissaient dans le monde spirituel, ils lui disaient, nous savons qui tu es. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Saint de Dieu. Les démons, ils croient en Dieu, ils tremblent devant la puissance de Dieu. Mais beaucoup d'hommes et de femmes ne croient pas en Dieu, ils tremblent pas. Et pourtant, Dieu est une réalité vivante. Avoir la foi, c'est avoir une communion personnelle avec le Christ de l'Évangile. Mais pas seulement avec le Christ de l'Évangile, et avec son Église aussi. Parce que l'Église est indissociable du Seigneur. Et l'Église, c'est l'épouse du Christ. Et si tu dis que tu as une communion avec ton Seigneur, avec le Seigneur Jésus, et que tu es séparé de l'Église, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus a fait de l'Église son épouse. Et quand il voit l'Église, il dit, celle-là, cette Église-là, c'est la chair de ma chair et les os de mes os. Et l'Église et moi, nous faisons un. Et Jésus a payé le prix pour que l'Église puisse naître. Le coup de lance donné sur son côté, l'eau, le sang qui ont coulé du côté percé de Jésus, c'est le moment où l'Église est née. Il l'a lavé par l'eau et par le sang, par le moyen de la parole, pour se la présenter à lui, pur, sans tache, sans ride, ni rien de répréhensible. Jésus a dit, je bâtirai mon Église, je la bâtirai, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et il va dire ceci, et tout ce que vous liez sur la terre a été déjà lié dans les cieux, et tout ce que vous déliez sur la terre a été déjà délié dans les cieux. C'est chose faite. L'Église doit rentrer dans la victoire du Seigneur. Avoir la foi, c'est avoir une communion personnelle avec le Christ de l'Évangile et avec son Église. Quand cette foi est véritable, elle est l'expression d'une expérience et du témoignage obligé qui l'accompagne. Obligé. Obligé. La foi va t'obliger à témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi. Premièrement, expérience de la mort à soi-même, à laquelle elle nous conduit, et dans laquelle nous maintient notre identification au Christ mort pour nos péchés. Expérience de la mort à soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire, mourir à soi-même? Eh bien, mourir à soi-même, mes bien-aimés, c'est mourir à tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Mourir à mes désirs. Mourir à mes envies. Mourir à mes convoitises. Mourir à plein de choses qui, dans notre vie, fait un obstacle à la communion avec Dieu. Expérience d'une résurrection en vie nouvelle, à laquelle la foi nous conduit et dans laquelle nous croissons par notre identification dans le Christ ressuscité pour notre justification. Ah, frères et sœurs, tu as été justifié si tu appartiens au Seigneur. Ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi sanctifiés. Et ceux qu'il a sanctifiés, il veut aussi les glorifier. C'est le chemin par lequel nous passons. Si Dieu t'a choisi et si Dieu t'a appelé, Dieu te justifie au moyen de l'œuvre de la croix, au moyen de la rédemption qui est en son Fils, Jésus-Christ. Le prix de ton péché, Jésus l'a racheté à la croix. Il a payé le prix pour ça. Toutes nos pourritures, toutes les pourritures qu'il y a dans nos vies, l'homme est déchu de la grâce tant qu'il est loin de Dieu. Mais quand il s'approche de Dieu, alors le Seigneur lui fait miséricorde. Oh, jamais nous n'oublierons le jour où le Seigneur nous a touchés. Jamais nous n'oublierons le jour où le Seigneur est rentré dans notre vie. Jamais. Parce que c'était le jour de notre nouvelle naissance. Nous sommes morts à ce monde et aux convoitises de ce monde et aux choses de ce monde et nés dans les valeurs du royaume de Dieu. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur nous accorde. Cette clé de la foi est donc la première en importance puisqu'elle a la vie du Christ en nous, la seule qui est triompher de l'adversaire encore à l'œuvre sur la terre et dans le ciel, car ce n'est pas nous qui libérons, Christ est libérateur, c'est lui qui libère, nous nous sommes que ses serviteurs. Je ne libère pas, c'est Christ qui libère. Donc je ne prétends à rien. Il faut déjà que si je prétends à aller vers un frère ou une sœur ou un homme ou une femme à libérer, que j'ai déjà dans mon cœur la mesure de foi qui va permettre que je croie en ce que je vais accomplir au nom du Seigneur. Ça, c'est la première clé. La seconde clé Je rappelle le sang de Jésus. Se réclamer du sang de Jésus, c'est proclamer la seigneurie de Christ sur nos vies. C'est mettre entre l'adversaire et nous un mur infranchissable. C'est donc lui arracher des mains toute possibilité de garder en nous quoi que ce soit qui nous mettrait sous sa dépendance. Jean va dire, celui qui est né de Dieu, il ne pêche plus, il se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Si tu ne veux pas subir des influences de l'ennemi sur ta vie, parce qu'il y a des portions de ta vie qui ne sont pas soumises à la seigneurie de Christ, garde-toi toi-même. Garde-toi toi-même. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont issues les sources de la vie. Et tous ceux qui ont eu à exercer ce service de délivrance savent très bien que les esprits, les démons ne peuvent pas supporter l'invocation du sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est pur et sans tache. Il est bien plus précieux que l'or périssable. Il est bien plus précieux que tout ce qu'il peut avoir sur la terre. Car ce sang nous donne la vie. Nous ne devons pas non plus faire du sang de Jésus comme une espèce de gris-gris qu'on aurait à répéter comme des idiots. Le sang, sans avoir réalisé la valeur de ce sang. C'est comme le nom de Jésus. Jésus, 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 et en avant Jésus, de Jésus tu en veux, en long, en large et en travers. Mais il n'y a aucune résonance dans le cœur. C'est comme si on récitait un chapelet. Quand tu prononces le nom du Seigneur, tu le prononces avec respect, avec amour, avec crainte. Quand tu invoques le nom du Seigneur, tu réalises que ce sang a eu une portée dans ta vie, que ce sang t'a apporté la vie. Et tu ne pourras l'employer que si tu es dans la réalité de la foi et dans la réalité du sang de Jésus. Ne prononce pas le nom du sang de Jésus si tu vis ta vie encore dans le péché. Ça ne sert à rien. Vous vous souvenez ce que Jean disait ? Si nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous prétendons être clean, si nous prétendons que nous n'avons jamais péché, nous le faisons menteur à Jésus et la vérité n'est pas en nous. Car Jésus est mort à la croix pour nos péchés et pour nos iniquités. Et son sang a coulé, un sang pur et sans tache, un sang innocent. Et Jésus a été vu pendant 33 ans et demi de sa vie. Il a été vu de tous et personne, même pas le prince de ce monde, même pas Satan, ne pouvait dire qu'il y avait quelque chose en lui qui était pas juste. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Il n'y a aucune partie dans ma vie qui lui appartienne. Tu peux te dire autant ce matin que l'ennemi n'a pas de prise dans ta vie, il n'y a pas une partie de ta vie qui est sous l'influence encore de l'ennemi. Premièrement, la foi. Deuxièmement, le sang de Jésus. Troisièmement, la sainteté dans ta vie et dans ta marche. C'est seulement par l'Esprit de Dieu que Jésus a pu dire que le prince de ce monde venait et qui n'avait aucune prise en lui. C'est Jean 14, 18. C'est quand Jésus n'y a aucune trace de ce qui nous caractérise et fait de nous des complices de Satan. En Jésus, il n'y avait aucune trace de ce qui nous caractérise en nous. Lui, il était pur et saint. Vous savez, plusieurs religions dans le monde, même des sectes, des religions dites chrétiennes, elles se disent chrétiennes, mais en réalité, elles nient l'expiation des péchés et elles nient le sang de Jésus et qui a purifié les péchés. Et on reconnaît une vraie église chrétienne dans le fait que cette église confesse l'œuvre de la croix, la rédemption du Christ, le sang versé par Christ et qu'il est mort pour nos péchés. Frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin, dites-moi, est-ce que nous n'avons pas conscience d'être des pécheurs? Est-ce que nous mentons pas? Est-ce que nous trichons pas? Est-ce que nous volons pas? Est-ce que nous faisons pas de faux témoignages? Est-ce que nous ne mettons pas l'adultère? Est-ce que ces choses n'ont pas été faites? Et c'est pas par mérite religieux que je vais avoir la possibilité d'être purifié. Seul le sang d'un agneau innocent pouvait laver le péché des coupables. Voilà ce que dit l'Écriture. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Et vous savez pourquoi le sang était sur les quatre cornes? L'autel était un carré parfait. Et les quatre cornes étaient sur les quatre coins de l'autel. Et la corne dans l'Écriture, c'est un symbole de puissance. Ça voulait dire que le sang qui était aspergé sur les cornes était un symbole de puissance pour tous les hommes et en tout lieu de la création. Alléluia! Jésus est venu pour sauver tous les hommes, tous, toutes les femmes, sans exception. Il faut que tu te décides pour lui. Merci. C'est qu'ainsi Jésus, l'agneau innocent, a été égorgé sur l'autel de la croix et son sang a coulé pour que l'effusion de sang de l'agneau de Dieu, le Christ vivant, puisse nous sauver du péché et de la colère à venir. Le plus grand obstacle à la sainteté, c'est notre moi orgueilleux. Vous savez, on est tous pareils. Par exemple, un exemple, nous décidons de faire une chose et nous la faisons. Et après, on dit au Seigneur, merci d'avoir béni ça. Et combien de fois c'est arrivé que nous faisions la chose et que nous demandions ensuite à Dieu de bénir? Mais c'est pas comme ça que ça marche dans le royaume de Dieu. Pour faire une chose avec Dieu, il faut être soumis à l'Esprit de Dieu. Et quand il y a le feu vert de Dieu, alors tu le feras et ça portera du fruit. Parce que l'autre chose ne porte pas de fruit. Celle que tu as faite de toi-même ne portera pas de fruit. C'est notre moi orgueilleux, ce moi qui veut paraître, ce moi qui veut nous rendre plus importants que les autres, ce moi qui, l'Écriture dit, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Une marche dans la sainteté, c'est de permettre à l'Esprit de Dieu d'éradiquer en nous le moi orgueilleux. Il y a un conseil de l'écriture qui nous dit que pour marcher dans cette sainteté, hein, c'est une exigence que la sainteté et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Une marche dans la sainteté, c'est une marche, n'est-ce pas, qui est conforme à la réalité du Christ. Soyez saints comme mon Père est saint. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. C'est pas que de nous-mêmes nous atteindrions la perfection et la sainteté. Mais Jésus nous a communiqué cette sainteté à l'œuvre de la croix. Il nous a sanctifiés, il nous a mis à part. Maintenant, nous devons marcher dans cette réalité de la sainteté. Alors, comment marcher dans cette réalité de la sainteté? En étant rempli du Saint-Esprit. En étant rempli du Saint-Esprit. Comment? Comment être rempli du Saint-Esprit? D'abord, il faut que tu sois né de nouveau, que tu aies reçu l'Esprit de Dieu. Ensuite, l'Esprit de Dieu va t'amener à considérer les choses de Dieu. Et quand tu veux être rempli de l'Esprit, eh ben c'est facile pour un enfant de Dieu. Hein? Et en s'entretenant avec des cantiques spirituels, avec des psaumes, avec des enseignements, en chantant à Dieu de tout notre cœur, cherchant les valeurs du royaume de Dieu, cherchant la réalité de l'Esprit en nous qui va nous remplir, nous faire grandir. Et mon cœur va déborder. Que ma coupe déborde. Si nous ne connaissons pas toujours, l'adversaire, lui, nous connaît bien. À l'heure du combat, il sait qu'il affaiblira notre offensive jusqu'à la rendre inopérante. S'il a pu maintenir en nous ses poches de résistance, ses postes peuvent contenir des compromissions, de la désobéissance attristante et paralysante pour le Saint-Esprit. Combien de fois, quand nous avons pu prier pour des personnes, nous voyons les esprits se manifester, mais l'esprit ne pas partir. Combien de fois nous n'étions pas en état de prier pour cette chose? Nous n'étions pas en état de prier pour cette chose. Que d'erreurs faites! Que d'erreurs faites, et pourtant la réalité du royaume de Dieu est là. Dieu veut libérer ses enfants. C'est le credo de Jésus à la synagogue. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés, pour soulager les opprimés, pour libérer les captifs, pour délivrer les prisonniers. Mais quels captifs, quels prisonniers? À la prison de Maguelone? Non. Les prisonniers, les captifs qui sont prisonniers dans les puissances spirituelles mauvaises. Car l'évangile de Christ est un évangile spirituel. Ceux qui sont pris dans les filets de l'ennemi, ceux qui ont consulté et pratiqué l'occultisme, le spiritisme, et qui sont allés voir des marabouts, qui sont allés voir des guérisseurs, qui sont allés voir dans les choses occultes, qui peu à peu se sont fait lier par Satan. Aussi, lorsque l'apôtre nous invite à revêtir toute l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable, la vérité est notre première arme. Savez-vous que la vérité n'est pas un concept de l'intelligence humaine? La vérité, c'est pas ce que je dis. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est une personne. C'est la personne même de Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne va au Père s'il ne passe par moi. Et bien sûr qu'il faut passer par le Seigneur. Parce que s'il n'y avait pas la croix entre le Père et nous, on serait condamnés. S'il n'y avait pas eu ce don d'amour, cet acte d'amour du Seigneur, ce don de Jésus pour nous, on serait condamnés. Nous cacherions-nous à nous-mêmes nos faiblesses? Les esprits, les démons, eux, les repéreraient, pourraient et trouveraient assez agrippés. La vérité est que Jésus est venu pour ôter le péché du monde et que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Il est venu pour ôter le péché du monde. Ôter le péché du monde depuis Adam. Depuis Adam, depuis la transgression d'Adam et de Ève, depuis que Adam et Ève ont transgressé l'ordre divin, et depuis que Adam et Ève ont voulu mener leur vie comme ils l'entendaient, en s'affranchissant de l'autorité divine. Depuis que Ève a tendu l'oreille aux propos du diable, quand il a dit, Dieu a-t-il vraiment dit que Dieu est-il vraiment vivant? Dieu a-t-il dit que on ne devrait pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? La séduction. Deux paroles entendues dans la bouche des démoniaques corroborent cette vérité. La puissance à laquelle nous ne pouvons pas nous opposer, c'est l'humilité combattant l'orgueil, la pureté combattant l'impudicité, c'est le pardon combattant la rancune. Voilà, frères et sœurs, le pardon aussi est une clé pour entrer dans le royaume de Dieu. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, mon Père céleste qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Le pardon. Tu sais que quand tu es en train, tu es mal avec une personne, que tu as eu des différends et des problèmes, et qu'il y a eu séparation, combien il est difficile de revenir vers cette personne. Je vais te dire, plus tu attends aller vers la personne pour lui demander pardon, et plus le fossé se creuse. Alors, il y a des chrétiens très spirituels qui vous diront, j'attends que le Saint-Esprit me montre pour aller demander pardon. Foutaise. Ne croyez pas en ces mensonges. Pourquoi je dis ça? Parce que Pierre a posé la question au Seigneur. Combien de fois pardonnerai-je mon frère? Jusqu'à 7 fois? Et Jésus a dit, non, Pierre. Jusqu'à 70 fois, 7 fois. Si tu fais le compte, 490 fois. Si tu vois combien tu vis une journée, à peu près 10, 11 heures où tu es réveillé, tu divises par 490 et tu vas voir que tu dois être en état de pardon constamment. Et alors, l'Écriture nous dit dans l'Ancienne Alliance que pour rétablir la chose qui nous a séparés, c'est-à-dire, plus j'ai entretenu la rancune dans le cœur de mon frère, comment vais-je faire pour restituer mon amour à mon frère? L'Écriture nous dit qu'il faut prendre le principal de la dette et en ajouter un cinquième. Un cinquième dans l'amour plus le principal dans l'amour. Ça veut dire qu'il faut jamais laisser dans ton cœur traîner des rancunes, des rancœurs. Même si elles te paraissent justifiées, même si tu crois avoir raison, je te dis, fais attention, ton moi, il a toujours raison. Alors que le pardon, il va calmer les cœurs, il va calmer les rancunes, il va les extirper du cœur. Vous savez, une fois j'ai vu une personne qui avait une telle rancune contre son père. C'était une femme, et une croyante encore, à l'époque. Elle avait cette rancune, et ce non-pardon avait fait en elle un ulcère à l'estomac. Vous le savez, ça? Et quand nous avons été amenés à voir cette personne, et partager avec elle, et prier pour elle, et qu'elle a accepté de pardonner à son père, et qu'elle a appelé son père pour pardonner à son père. Cette personne devait le lendemain être opérée de cet ulcère. Elle avait les radios de l'ulcère et le lendemain matin, elle devait aller se faire opérer. Et nous avons prié pour cette personne et nous sommes partis, bien sûr. Et le lendemain, cette personne est allée à l'hôpital pour se faire opérer. Et avant de l'opérer, ils ont fait une radio de contrôle. Et chose extraordinaire, il n'y avait plus d'ulcère. Voyez-vous, le pardon est libérateur. Quatrième clé, l'autorité. Alors l'autorité, nous avons dit tout à l'heure, elle vient directement de la parole de Dieu. Si tu veux avoir une autorité dans ta vie, dans le nom du Seigneur, il faut que la parole de Dieu habite richement dans ton cœur, par révélation et par le Saint-Esprit. Amen. Donc cette parole habitant richement dans ton cœur, elle va devenir autorité en toi. Comment croyez-vous que Jésus ait fait échec au tentateur dans le désert au moment où il débute son ministère? Le diable vient pour le tenter. Il commence à lui sortir la parole de son père pour essayer de lui faire changer de position. Jésus aurait pu faire un acte de puissance, il l'a pas fait. Jésus aurait pu demander à son père une douzaine de légions d'anges pour faire échec à Satan. Pas du tout. Jésus est resté sur le terrain de la parole de son Père. « Je suis venu pour faire ta volonté, Père. » Et il a répondu avec la parole. « Ketiv, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. » Il tenait l'autorité du royaume parce qu'il était, lui, la parole de Dieu incarné. Et si tu veux avoir cette autorité dans ta vie, il faut que la parole de Dieu habite richement dans ton cœur. Parce qu'au moment d'exercer cette autorité, le Saint-Esprit mettra sur ton cœur les paroles nécessaires pour que l'autorité soit manifestée. J'ai dit autorité, j'ai pas dit autoritarisme. L'autorité. Obliger quelqu'un à déloger n'est possible que si notre parole et l'ordre d'obtempérer laissent clairement entendre que nous avons mandat et pouvoir d'exécution. Je t'ordonne, je te commande au nom du Seigneur. Je te commande ou je t'ordonne doit émaner d'une personne crédible. Parce que les esprits te connaissent, ils connaissent ta vie. Il faut que tu sois crédible et revêtu de l'autorité de ton Seigneur. Sinon, si tu n'es pas crédible, tu vas te trouver devant des problèmes. Des choses que tu ne souhaiterais pas vivre. Des choses qui auraient peut-être une implication plus tard pour ta vie. Fais attention. Fais attention. L'Écriture nous dit, soyez sobre. Soyez sobre dans votre vie, car le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde. Si tu ouvres une porte dans ta vie, crois-moi, le Seigneur lui dit, si quelqu'un entend frapper à la porte, et qu'il ouvre la porte de quoi? De son cœur. Alors oui, le Seigneur ne force personne. Le Seigneur ne te forcera pas à venir à lui. Mais si tu as entendu sa voix et que tu ouvres la porte de ton cœur, alors il pourra entrer en ta vie et faire sa demeure en toi. Mais l'ennemi, lui, ne te demande pas ton avis. Si tu ouvres la porte de ton cœur au péché et que tu le pratiques, tu vas voir. Il ne te dit pas, tu permets que je rentre? Il rentre direct. Le Saint-Esprit est un gentleman. Alors nous devons préciser que pour l'adversaire, nos titres ecclésiastiques, notre stature ou notre volume de voix n'ont rien d'impératif. Une seule autorité le fait céder, c'est le nom de Jésus. C'est pas parce que tu as une grosse voix, c'est pas parce que tu es musclé comme un bel athlète, c'est pas parce que tu as une haute stature qu'il va avoir peur de toi. Seul le nom de Jésus le fait trembler. Seul le nom du Seigneur. À condition, bien sûr, que le serviteur qui en appelle au nom de Jésus s'avère autorisé à s'en réclamer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, n'invoquons pas le nom du Seigneur à tort et à travers. Sème qui est une clé, le glaive de l'esprit. Le glaive de l'esprit, c'est une arme offensive et défensive. Qu'est-ce que c'est que le glaive de l'esprit? C'est la parole de Dieu. Faites toutes sortes de prières en esprit. Et elle fait partie de l'armure complète de Dieu. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Avec une épée, on peut attaquer. Et avec une épée, on peut se défendre. C'est une arme offensive et défensive de la justice de Dieu. C'est une arme qui est très puissante entre les mains de ceux et de celles qui marchent avec le Seigneur conformément à la volonté divine. C'est la puissance en laquelle l'autorité dont nous nous réclamons resterait inopérante. Si tu te réclames de l'autorité du Seigneur sans que la parole de Dieu habite richement dans ton cœur, elle sera inopérante. Et Paul nous rappelle le métal précieux et incomparable de la parole de Dieu. On a ça dans Éphésiens 6, 17, que je viens de citer. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Dans la chute d'Adam et d'Ève, c'est par une déformation, par une contestation, une dévalorisation de la parole divine que Satan amena l'homme à sa merci. Il a déformé. Il a contesté. Il a dévalorisé la parole de Dieu. Lors de la tentation, Jésus, le nouvel Adam. Amen. Le nouvel Adam, le dernier Adam. Il y a eu le premier Adam, il est de la terre, il est terrestre. Le dernier Adam, il vient du ciel, il est céleste. Le dernier Adam, Jésus-Christ, lors de la tentation, s'affirma simplement par une foi inébranlable en la parole. Il dit, il est écrit, ketiv, il est écrit. Satan n'avait rien à répliquer. Parce que dans le dialogue avec Jésus, il voulait enlever et ajouter à la parole de Dieu ce qui n'était pas. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a au chapitre 22, « Malheur à celui qui enlève ou qui ajoute à ce livre. » Tu n'enlèves pas la parole et tu n'ajoutes pas à la parole. Tu dis la parole, car toute parole est inspirée de Dieu. Elle a reçu le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Elle a écrite par des hommes différents, de qualités différentes, de métiers différents. Mais tous ces hommes étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Il y avait des bergers, il y avait des rois, il y avait des gens de toutes sortes. Mais ils avaient tous été inspirés par le roi de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Oh, que Dieu soit béni pour le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni pour le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni pour le Saint-Esprit qui est en nous et qui nous rappelle ce matin les paroles du Seigneur. Il prendra de moi, il vous rappellera les paroles que je vous ai dites et il me glorifiera. Et moi, en parlant avec la parole de Dieu ce matin, je veux glorifier mon Seigneur. Là où Jésus puisa sa force, c'est dans le fait qu'il soit resté sur le seul terrain de l'Écriture. Du premier acte au dernier acte de sa vie, Jésus dénonce le mensonge de l'adversaire qui proclame et s'attribue une liberté, une autorité, un pouvoir dont il ne dispose jamais. Jamais. Jésus a dit, quand il est sorti vivant du tombeau et qu'il est monté auprès du Père, il nous a dit cette chose, « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans les cieux. » Et assis à la droite du Père, il intercède pour nous et nous attendons le jour de son retour qui vient bientôt. C'est rétablir cette souveraineté de la parole dans l'esprit, le cœur et la vie de toutes les créatures que Jésus se consacra. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est également la seule force du serviteur. L'ennemi est rusé. Lors de la tentation de Jésus, il usait aussi de la parole adroitement séparée de son contexte et par la même déformée. Le Christ présent par l'Esprit en nous mettra dans notre bouche le glaive qui rétablira la vérité, coupera les liens de l'injustice, menacera et finalement contraindra la puissance adverse à lâcher prise. Le Seigneur nous a confié le précieux dépôt de l'Écriture inspirée. Amen. Le précieux dépôt de l'Écriture inspirée. Sixième arme, la prière. Cette prière est davantage une proclamation qu'une intercession. Nous proclamons les choses de Dieu. Nous proclamons la parole de Dieu. Nous proclamons ce que le Seigneur, comme le Seigneur a agi, n'est-ce pas, dans les Écritures, nous devons proclamer les mêmes paroles. Je te commande au nom du Seigneur de sortir. Je proclame, j'ordonne, parce que je suis revêtu de l'autorité du Seigneur. Je suis investi de la puissance du royaume. Dieu est avec moi, et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? La prière est plus une proclamation qu'une intercession. On pourrait même dire, écoutez bien cela, c'est important. On pourrait même dire qu'elle est une évangélisation des puissances et des dominations. Elle leur déclare ce qu'elle refuse d'admettre, leur défaite à Golgotha, le prix payé pour la libération de tout homme, le mensonge de leur intention à l'hégémonie, la vérité de la parole, la souveraineté du Seigneur, leur impuissance à y contredire. En proclamant, on les évangélise. Le sang de Jésus, Golgotha, on est en train d'évangéliser le monde des ténèbres. proclamation. Et tout cela appuyé, fondé sur la parole du Seigneur. Cette prière est en même temps une acclamation du Christ Seigneur dans la communion de l'Esprit Saint et en accord avec toutes les créatures célestes. Elles sont heureuses de manifester qu'au ciel et sur la terre, un seul est roi à la droite du Père et que devant lui, tout genou doit fléchir et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les démons ne peuvent supporter une telle prière. Ils s'en vont. Ou vous savez bien, Satan, Satan, ce que vous voudrez, l'adversaire, l'ennemi, celui qui haït, celui qui veut détruire. Cette prière ne requiert pas l'attention d'une intelligence attentive à la formulation mémorisée, improvisée d'un credo efficace. Laissant l'intelligence à d'autres aspects du combat, elle entraîne notre esprit dans une communion profonde avec le Saint-Esprit. Elle entraîne notre esprit avec une communion profonde avec le Saint-Esprit, car c'est là que nous pouvons recevoir de Dieu et les dons de discernement des esprits et les révélations de Dieu pour que les gens soient libérés. L'Esprit de Dieu viendra toujours attester la parole de Dieu. Car l'Esprit et la parole, mes paroles, dit Jésus, sont esprit et vie. Les paroles sont esprit et l'Esprit est la parole. La parole et l'Esprit sont un. Christ et le Saint-Esprit sont un. Le Père et le Fils et l'Esprit Saint sont un. Ils sont trois en un. C'est un mystère, trois en un. Père, Fils, Saint-Esprit. Celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Et septièmement, les dons des discernements des esprits. La septième clé. Septième clé. En effet, l'exercice nous rend dépendants de l'Esprit Saint dont l'assistance nous est assurée par le Seigneur. C'est un don éminemment désirable. En cette fin de siècle, selon la prophétie de Jésus, nous baignons dans le faux prophétisme et les idéologies. Ajouté à cette confusion spirituelle, il y a un foisonnement de maladies psychiques, conséquence des bouleversements de la société. En conséquence, il faut être attentif, d'une part, au désarroi grandissant de milliers de nos contemporains, et d'autre part, à la préparation de ceux qui, par vocation, avaient mission d'être la lumière du monde, les bergers et les troupeaux et les gardiens, leurs frères. Nous avons à nous humilier de ce scandale, la rareté de la présence et de l'usage du don des discernements des esprits dans l'Église aujourd'hui. Nous avons à nous humilier devant Dieu que ce don-là est rare dans l'Église du Seigneur. Car, je vous ai dit tout à l'heure, dans cette fin de temps, Dieu rétablit les choses et l'autorité de son Église et les dons spirituels. Je suis persuadé dans mon cœur que les temps qui arrivent vont être des temps glorieux. Ce que nous avons désiré voir depuis des années et que nous n'avons pas vu, Dieu nous fera grâce de les voir. Je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Qu'est-ce que nous apporte ce don des discernements des esprits? Premièrement, une connaissance des vrais besoins de ceux auxquels nous nous adressons. Deuxièmement, un refus éclairé des exagérations, travestissements et des illusions, mensonges, conscients ou inconscients, qui font obstacle à la libération. Une mise à jour par révélation ou par vision des causes profondes d'une souffrance morale ou physique, d'un comportement inexpliqué, d'un blocage psychique, d'un trouble de comportement. Quatrièmement, un discernement de la présence de l'ennemi perçu derrière la voix du patient, parfois dans son regard, parfois dans les traits mouvants de son visage, parfois dans les propos qu'il tient. Ce discernement permet aussi souvent le repère de la sorte d'esprit à l'œuvre, de ses feintes, de ses ruses, de ses intentions ou de ses manifestations, des lieux et des abris qu'il prétend garder dans l'homme. Il est précieux ce don spirituel. Et je vous encourage à le demander à Dieu. Parce qu'il sera simplement efficace, non seulement dans l'Église, non seulement dans vos familles, mais dans le monde du travail où vous êtes. Dans mon collège, dans mon lycée. Les copains que je fréquente, les amis que je fréquente, les filles que je fréquente, pour les jeunes. Avoir ce discernement, c'est de vous garder vous-même, de tomber dans des pièges. Hein? Ne soyez pas naïfs. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas avoir par un regard langoureux, par une bonne parole. Examinez toutes choses. Éprouvez ces choses-là, si elles viennent du Seigneur ou pas. Faites attention où vous mettez les pieds. Après l'expulsion de l'ennemi, le don de discernement permet de connaître si le terrain est réellement libéré et si dans ce terrain ne se dissimuleraient pas encore quelques esprits méchants. C'est là une sage énumération, elle n'a rien d'exhaustif. Elle aidera à saisir pourquoi il y aurait à demander que en son église, ce don soit manifesté. Voilà les sept clés. La foi, le sang de Jésus, la sainteté, l'autorité, le glaive de l'esprit, la prière et le don de discernement des esprits. Voilà les sept clés que l'enfant de Dieu doit réunir dans sa vie s'il veut prétendre libérer son prochain. Si une seule de ces clés nous manque, nous sommes en grand danger. Parce que l'ennemi, lui, sait. Amen.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net